me montra un fleuve, d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Alors voyons d'abord cette première partie. Nous avons là encore des difficultés à surmonter. Cette fois-ci, nous pénétrons en quelque sorte dans la cité. Jusque-là, on a vu la cité dans son ensemble, et puis là, la vue de Jean pénètre dans la cité. Et que voyons-nous d'abord? Un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal. Ce fleuve rappelle le jardin d'Éden. Et tout de suite, bien sûr, nous voyons qu'il y a des différences. Les différences apparaissent. L'homme parvenu à la perfection retrouve le paradis, mais non pas celui dont il avait été chassé, mais un paradis éternel, où il n'existe plus aucun risque de péché. Le risque de péché n'existe plus. Tandis que dans le premier paradis, il était là le risque du péché. Il n'existe par conséquent aucun risque de séparation et de mort. C'est la vie, la mort n'existe plus. Comme son Seigneur, il peut dire, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Par la résurrection, l'homme a reçu un corps qui ne peut plus mourir, l'homme, enfin l'élu. Comparons un peu la première et la seconde création. Première création, c'est avec la première terre, et la seconde création sur cette nouvelle terre, cette seconde terre. Dans la première création, tout au début, au jardin d'Éden, le fleuve, nous est-il dit, sortait d'Éden. Il faut supposer qu'il y avait une région appelée Éden, et le fleuve sortait d'Éden, nous dit la Genèse. Dans la seconde création, le fleuve sort du trône de Dieu et de l'agneau. C'est tout à fait différent. D'autre part, il n'y a plus dans la seconde création d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ne le regrettons pas. Donc, il n'y a plus d'interdiction. Là, il y avait avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le jardin d'Éden, il y avait une interdiction. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Si tu en manges, tu mourras. Mais là, il n'y a plus d'interdiction aucune dans la seconde création. Plus d'interdiction. Je vous ai déjà dit que l'amour était la loi. L'amour était la loi. Il n'y a plus de loi non plus. La seule loi, c'est l'amour. Et encore, elle n'a pas une forme de loi. L'amour est quelque chose qui est naturel, qui est dans tous les cœurs, qui s'exerce naturellement à l'adresse de la personne de Dieu, qui s'adresse de l'un à l'autre, des habitants de la cité. Et l'amour est parfait, l'amour parfait apporte la solution de tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, mais je veux dire, empêche qu'il y ait des problèmes. Il n'y a plus d'arbres, plus d'interdictions, plus de serpents tentateurs, plus de procréation. Le Seigneur Jésus a dit « Ceux qui seront jugés dignes d'avoir part à la résurrection seront comme les anges, ils ne prendront ni mari ni femme. » Il n'y a plus de procréation. La nouvelle terre n'a pas de mère, nous l'avons vu, et ne connaît pas la nuit. Cela est redit dans notre chapitre 22. Dieu n'y fait pas seulement des visites. Dans le premier paradis, le jardin d'Éden, Dieu venait en visite. Là, il ne fait pas seulement des visites, il y habite. Il habite avec l'homme. Il y a tabernacle de Dieu avec l'homme. Dans la première création, le corps de l'homme avait été tiré de la poussière de la terre. Dans la seconde création, son corps est fait de matériaux célestes. Il est incorruptible à tous égards, au point de vue matériel, si vous voulez, comme au point de vue spirituel. Il est incorruptible et appelé corps spirituel, selon 1 Corinthiens 15, versets 39 à 44. Dans ces conditions-là, que pouvons-nous comprendre de ce texte, de ce dernier chapitre de l'Apocalypse, d'un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal et d'un arbre de vie? Il n'y a plus d'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il est question d'un arbre de vie. Bon, disons d'abord tout de suite que le mot qui est traduit par « arbre » est le mot grec « zulos ». « Zulos » qui peut désigner un arbre, je relis le texte. « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre, produisant 12 fois des fruits. » Alors, un arbre, c'est en grec « zulos ».« Zulos » qui peut désigner un spécimen, un arbre, il y avait un arbre, un seul arbre, ou qui peut désigner une espèce d'arbre. Une espèce d'arbre. Hein? Et c'est cette seconde acception qu'il est préférable de retenir. Parce qu'on ne voit pas, pas qu'il y ait sur la place de la ville un seul arbre. Un seul arbre. Mais une seule espèce d'arbre. Il y aurait alors, sur chaque bord du fleuve, un seul genre d'arbre. Un seul genre d'arbre. Mais une pluralité d'arbres. Il y aurait des arbres en nombre, mais une seule espèce. Le prophète Ézéchiel, lui, nous confirme dans cette pensée. Ou plus, peut-être même que c'est lui qui nous suggère cette pensée. Voyons en effet ce que dit le prophète Ézéchiel au chapitre 47. Chapitre 47, verset 7. Quand il m'eut amené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Vous voyez, là, dans la vision d'Ézéchiel, là aussi, il y a un fleuve, un torrent, dont l'eau est profonde, on peut la traverser, et sur les bords du torrent, il y avait beaucoup d'arbres de chaque côté. Alors, nous pouvons très bien, étant donné qu'il y a un certain parallèle entre cette vision d'Ézéchiel et ce que nous avons ici dans l'Apocalypse, peut très bien dire, en effet, bon, Xulos, il y a un arbre de vie, mais ça veut dire une seule espèce d'arbre de vie, et il y en a sur les deux bords. D'ailleurs, sur les deux bords, ici, il faudrait qu'il y ait non pas seulement un arbre, mais deux, parce que le texte nous dit, il y avait, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre, sur les deux bords. Donc, il y aurait au moins deux arbres. Si le mot xulos était entendu dans le sens de l'unité, du spécimen, n'est-ce pas, il y aurait au moins deux arbres, un sur chaque bord. Donc, il y en aurait plus d'un. Mais le mieux, c'est d'entendre xulos comme désignant une espèce, une seule espèce d'arbre dont il y a un certain nombre sur chaque bord. Nous allons voir d'ailleurs la chose encore s'éclairer. Le verset 2 nous dit aussi que le fleuve coulait au milieu de la place de la ville, au milieu de la place de la ville. Or, la traduction « place » ne nous satisfait pas beaucoup. Et certaines versions ont carrément opté pour une autre traduction, qui est celle-ci, « au milieu de la grande rue ». La traduction peut admettre « rue » tout aussi bien que « place ».« Au milieu de la grande rue ». Nous voyons ainsi le fleuve planté d'arbres sur les deux rives et sur ses deux rives et qui parcourt la grande rue en son milieu. Vous voyez une grande rue et puis au milieu le fleuve et sur les bords de chaque côté de ce fleuve des arbres plantés d'une seule espèce. Voilà. Voilà en somme ce que il est plus exact de comprendre. Mais avons-nous le moyen de comprendre la raison d'être du fleuve de l'eau de la vie et des arbres de vie? Assurément, nous ne pouvons les considérer que d'après leur symbolisme. Nous recevons message selon leur symbolisme. Il montre que la vie des hommes reste toujours dépendante de Dieu. Les hommes ne peuvent, il n'y a plus de mort, ils ne peuvent plus mourir. Mais cependant, il faut que la vie des hommes reste dépendante de Dieu. Il n'est pas concevable, il n'est pas possible, et ça n'est pas en effet conforme au message biblique, que la vie soit donnée, n'est-ce pas, à un être, à une créature humaine, mettons, purifiée, parvenue à la perfection, voilà, tu as la vie éternelle, puis maintenant ça va te promener, fais ce que tu veux, n'est-ce pas, tu as la vie éternelle, elle est en toi, et puis c'est bien, n'est-ce pas, c'est fini, il n'y a plus de problème. Non, ce n'est pas qu'il y ait un problème, mais ça ne peut pas être ainsi. La vie est bien donnée, certes, mais elle est toujours dépendante de sa source. C'est bien ce que nous dit, en effet, la première épître de Jean, « Celui qui a le Fils, en lui-même, qui a le Fils, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Donc, il ne s'agit pas de recevoir la vie éternelle, qu'une des grosses erreurs qu'on propage souvent, ça. Recevoir la vie éternelle comme, n'est-ce pas, un cadeau qu'on vous fait, puis, bon, le cadeau, on le prend, bon, merci, je m'en vais avec, je le garde, n'est-ce pas, c'est bien, j'en fais ce que je veux, n'est-ce pas, je l'ai, c'est fini. Non, c'est pas ça, le don de la vie. La vie est donnée et reste attachée à sa source. Il faut donc que tu aies la source en toi. Il faut que celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Et le Christ, nous le savons, dans Jean 5, a dit qu'il était source de vie, qu'il donnait la vie à qui il voulait. De même que le Père a reçu, donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Donc il est source de vie, et il faut avoir la source de vie. Or, c'est cela que nous voyons là, traduit par ce symbolisme de l'arbre de la vie, du fleuve de la vie et de l'arbre de la vie. L'homme ne peut avoir en lui la source de la vie éternelle, cette source sort du trône de Dieu, le fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, et l'homme en reste dépendant. Ça ne lui manquera jamais, mais il en reste dépendant. D'autre part, cette source qui sort de Dieu ne peut pas tarir. Elle ne peut tarir comme ce fleuve qui parcourt la grande rue de la cité. Alors, il y a quelque chose dans pas fini avec les difficultés. On voudrait bien, n'est-ce pas, que n'en pas trouver des difficultés. Hein. Ça fait poser des questions à tous nos jeunes, ça. Et, alors, il y en a encore une. Il y en a encore une difficulté, là. Voyons le verset 2. Au milieu de la place de la ville, donc nous disons de la rue de la ville, et sur les bords, les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Oh ! Dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y a plus de malades, là, voyons. Oh ! Là. Alors, je sais bien qu'il s'agit de la guérison des nations, c'est-à-dire de ces nations que nous avons vues, n'est-ce pas, ne pas être, ne pas habiter dans la cité, sont en dehors. Nous sommes sur une nouvelle terre, il y a de la place quand même, la cité occupe une grande place, mais il y a encore de la place de reste. Alors, les nations, elles habitent dehors. Mais alors, il faut croire que chez les nations, il y a de la maladie. Ah, ça, c'est quelque chose encore qui est difficile, parce que tout de même, nous sommes dans l'état d'éternité. Il n'y a plus rien qui ressemble à l'état temporel. Nous constatons un parallélisme de ce verset 2 avec Ézéchiel 47-12, et c'est avec ça que nous allons nous tirer d'affaire. Il faut bien que nous nous tirions d'affaire, n'est-ce pas, devant une difficulté du texte. Alors, 47-12, cette fois-ci, Ézéchiel 47-12, où nous lisons ceci. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Vous voyez, nous avons un parallélisme avec le chapitre 22 de l'Apocalypse. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ah, voilà déjà Ézéchiel qui nous avait dit cela, et nous voyons que c'est repris dans l'Apocalypse pour la nouvelle terre. Alors, en somme, c'est une reprise de ce qu'avait prophétisé Ézéchiel pour le temps du millénium, et nous pouvons dire que l'intention ici du texte de l'Apocalypse est de rappeler ce que Ézéchiel avait prophétisé pour en montrer l'accomplissement final. On peut également comprendre que si les fruits sont nécessaires, les feuilles le sont aussi, en contribuant à la conservation de l'état de vigueur par voie de dépendance de Dieu. La vie vient de Dieu, la vigueur, donc les fruits seraient nécessaires, les feuilles également. Il ne faut pas trop s'arrêter à ce terme de guérison qui nous alerte. Alors, au verset 3, il nous est dit qu'il n'y aura plus d'anathème, que le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Vous voyez, verront sa face. Alors, retenons bien ça, il s'agit de Dieu, hein, verront sa face. Plus d'anathème. Anathème, c'est-à-dire plus de malédiction. Plus de cette malédiction qui fut nécessaire sur la première terre, c'est tout. En rappel de cela que, ici, notre texte parle d'anathème. Sur la première terre, il avait fallu que Dieu prononce une malédiction. Maintenant, il n'y a ni cause, ni objet, ni personne pouvant provoquer une malédiction. Il n'y aura plus d'anathème. La guérison a fait parfaitement son œuvre dans les êtres humains de la nouvelle terre, esprit, âme et corps spirituel. Résumons en somme les autres assurances des versets 3, 4 et 5. Premièrement, l'établissement dans la ville du trône de Dieu et de l'agneau. Dans la ville, il y a donc le trône de Dieu et de l'agneau, et il n'y a qu'un seul trône pour Dieu et pour l'agneau. Jérémie a prophétisé de la manière suivante, « En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. » Chapitre 3, verset 17. Deuxièmement, un culte sera rendu à Dieu dans la ville. Troisièmement, les serviteurs verront la face de Dieu. Cette vue, qui est rendue possible à ce moment-là, constituera le suprême bonheur. Elle était l'espérance de toujours, et là, elle est réalisée. Dieu sera vu tel qu'il est, selon 1 Jean 3:2, et non plus seulement sa gloire. Quant au Seigneur Jésus, n'est-ce pas ? Il sera vu dès son retour sur la terre pour y régner. Par conséquent, là, ils verront sa face. Il y en a qui ont pu dire, n'est-ce pas, mais la face, c'est la face de Christ, c'est pas la face de Dieu, parce qu'on ne verra pas Dieu, etc. Des gens qui ont cette idée-là. Hein. Mais la face de Christ, on l'aura vue sur la terre. Avant le millénium, il va descendre, tout œil le verra. Sera vu, hein. Tandis que là, dans la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas la face de Christ qui a déjà été vue, mais c'est la face de Dieu. La face de Dieu. Dieu sera vu. Et pourquoi voudriez-vous que Dieu soit constamment invisible alors que l'état d'éternité, l'état de perfection est réalisé? Pourquoi Dieu ne serait-il pas vu? Enfin, la foi nous conduit à la vue, et la vue est la suprême récompense. D'autre part, l'inscription du nom de Dieu sur les fronts est quelque chose qui a été promis et qui sera réalisé là. Il n'y aura plus de lumière artificielle et tous participeront au règne éternel. Nous allons maintenant continuer, poursuivre par la lecture du reste, c'est-à-dire du verset 6 à la fin, au verset 21. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. » Alors, nous avons encore cet appui, cette assurance. Ces paroles sont certaines et véritables. Cette certification de l'Apocalypse par l'ange, qui a montré à Jean la nouvelle Jérusalem, ne signifie pas que les autres livres de la Bible ne bénéficient pas de la même assurance de vérité. Mais cette certification se justifie comme ceci. Le Seigneur Dieu, qui a donné son esprit aux prophètes, a entendu confier au messager Jean des paroles et des visions ayant une autorité revêtue de l'authentique connaissance prophétique, et cela concernant les événements qui ne manqueront pas de se produire bientôt. Jean a donc eu part à la même inspiration de l'esprit que celle qui a éclairé et dirigé les précédents prophètes. Et lui, Jean, il a la mission de révéler à l'Église ce qu'elle doit connaître des derniers événements et de ses destinées. Voilà quelque chose qui nous surprend encore, c'est le terme « bientôt ». Bientôt. Car ce sont déjà 19 siècles qui viennent de s'écouler depuis l'époque des visions de Jean. Et ce terme « bientôt » figure 4 fois dans l'Apocalypse, au chapitre 3, au chapitre 22, 7, versets 7, 12 et 20. Et c'est le Seigneur Jésus qui à chaque fois le prononce lui-même. C'est Jésus qui dit « je viens bientôt, bientôt ». Alors, ce « bientôt », on y substitue quelquefois, certains traducteurs y substituent le terme « promptement ». Promptement, je viens promptement, ou bien alors mon retour est proche. Il est vrai que le mot grec employé ici signifie promptitude, promptitude. Il indique la promptitude, mais aussi il indique la soudaineté. Donc je viens bientôt à un sens aussi non seulement de proximité, mais de soudaineté. Comme un voleur vient dans la nuit. L'Épître aux Hébreux mentionne aussi la proximité dans le temps du retour de Jésus-Christ, en Hébreux, chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Donc, nous avons cette assurance, n'est-ce pas, que le Seigneur ne tardera pas. Cependant, Jésus avait laissé entendre que son absence aurait tout de même une certaine durée. Dans la parabole des talents, le maître, qui part pour un voyage, ne doit revenir que longtemps après. Matthieu 25, 19. Il part pour un voyage et longtemps après. Vous voyez, le Seigneur, quand même, dans certains textes, vous avez montré qu'il y aurait un délai assez important. Assez fréquemment, dans la prophétie, il faut bien le dire, l'esprit passe au-dessus des longs mouvements de l'histoire et raccourcit le temps. Nous en avons bien des exemples dans l'Ancien Testament. La prophétie se projette, n'est-ce pas ? Elle part d'une certaine époque et puis, pouf, elle s'en va là-bas. À la fin des temps, c'est comme un projecteur qui passerait sur les montagnes pour aller éclairer une montagne lointaine. Assez fréquemment, la prophétie nous montrait cela. Toutefois, en cette fin du XXe siècle, les signes précurseurs du retour de Jésus se précise si nettement que l'on peut très bien prendre à la lettre la proclamation que nous avons ici de Jésus, « Je viens bientôt ». Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans son discours eschatologique, « Quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, dit le verset 7. Là encore est un doux conseil adressé au lecteur de l'Apocalypse, par conséquent, immédiatement à nous. Ce terme de garder a été utilisé par le Seigneur dans le sens de conserver les paroles et de les mettre en pratique, garder les paroles. Ici, il s'agit de les prendre comme guide constant d'une vivante espérance. Heureux celui qui garde mes paroles, les paroles de la prophétie de ce livre, c'est-à-dire celui qui vraiment conserve ces paroles comme guide de son espérance. Et puis nous avons ce que nous avons lu là, au verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Libre est chacun de choisir sa voie et de s'y maintenir. Attention cependant à deux choses. Il faut écouter la parole de vérité sans recevoir ni garder par défaut de décision ou d'insouciance. Écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas, sans recevoir ni garder, ça c'est quelque chose dont il faut se prémunir, n'est-ce pas. On pourrait recevoir, écouter la parole de Dieu, puis ne rien garder, ne rien recevoir, parce qu'on n'a pas, on est insouciant, on est léger, ou parce qu'on n'a pas vraiment la décision bien arrêtée d'obéir. D'autre part, il faut également se prémunir, se préserver, de se laisser entraîner en s'abandonnant au péché, au point de ne plus pouvoir se repentir et exercer la foi à temps. Vous savez que quand le péché est accepté et fait son œuvre, ses ravages, il les accumule, il arrive un moment où la personne ne peut plus exercer la foi. Et trouver ça, c'est quelque chose de malheureux. Des gens qui étaient dans l'Église et qui s'étaient laissés glisser assez longtemps dans le péché, et puis on essayait de les ramener, et disaient « je peux plus, je peux pas, je peux plus croire, je peux plus ». C'est quelque chose d'épouvantable. Alors vous voyez combien il est bon de tenir compte de cet avertissement qui nous est donné, que celui qui est injuste soit encore injuste. Attention, s'il s'enfonce dans la justice, eh bien, il ne pourra plus en sortir, il y a un moment où il n'en sortira plus. Voici, je viens bientôt, versets 12 et suivants. Jésus parle maintenant lui-même à l'Église et il rappelle d'abord sa rétribution, c'est-à-dire le salaire ou la récompense qu'il apportera. Il sera rendu à chacun selon son œuvre lorsque l'œuvre fera l'objet d'un examen, et cela constitue le principe universel des jugements de Dieu. Nous le trouvons dans l'Ancien Testament, le psaume 62, Jérémie 10, dans le Nouveau Testament, Matthieu 16, Romains 2 et 14, 1 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 5, Apocalypse 2, 23. Il y a un principe universel, n'est-ce pas cela, n'est pas au préjudice de la doctrine du salut par la foi seulement et non par les œuvres, mais les œuvres sont nécessaires pour attester une foi authentique. Ça, on l'oublie souvent. Et par conséquent, même le chrétien, sa foi sera pesée, puisque c'est par sa foi qu'il est sauvé, sera pesée par le travail que sa foi aura fait. Le Seigneur, dans les lettres de l'Apocalypse, dit « Je connais tes œuvres, je connais ton travail. » Je connais tes œuvres, ton travail. Vous voyez, le Seigneur est attentif à ça, parce que la foi se manifeste de cette manière. Par conséquent, c'est un principe universel que celui d'un examen selon ce qu'est l'œuvre. D'autres expressions similaires sont employées, par exemple, selon ses voies ou selon le fruit de ses œuvres. Les membres de l'Église n'échappent pas au jugement d'appréciation du Seigneur, car ils recevront chacun selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5:10. Et c'est là un avertissement contre toute fausse sécurité. Attention à la fausse sécurité. Le Seigneur nous a mis en garde contre la fausse sécurité ou contre l'espérance mal fondée. Vous avez même dans le monde des gens qui se disent chrétiens, pour une raison ou l'autre, ils se disent chrétiens, et certains pourront vous dire, moi, mais qu'ils seront sauvés. Mais oui, ils y ont dit, oui, c'est une fausse sécurité, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu fait bien de nous mettre en garde contre cette fausse sécurité. Sachons que la foi qui sauve n'a de réalité que si elle est attestée par une conduite chrétienne et des œuvres bonnes et justes. Seigneur Jésus nous a bien dit, n'est-ce pas, qu'il fallait que le monde voie nos bonnes œuvres. Et lui qui a employé cette expression, voie nos bonnes œuvres. On a éliminé complètement les œuvres, on en a peur, pour ainsi dire, des œuvres, n'est-ce pas, on a peur que ça touche à la doctrine. Pas du tout. On est bien sauvé par la foi seulement. Il faut que nous soyons revêtus de la justice qui s'obtient par la foi seulement. Bon, mais quand la foi a agi, quand on est devenu enfant de Dieu, on a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Hein? Le dit les Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Je suis l'alpha et l'oméga. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, nous a dit l'évangile de Jean. Jésus-Christ, en somme, a ouvert l'existence et la carrière de l'homme sur la terre, et c'est lui qui en règle la fin. C'est lui qui a ouvert la carrière de l'homme sur la terre. Par lui que toutes choses ont été créées. Il a ouvert, et il en règle la fin. Il est avant toute chose, je suis l'alpha et l'oméga. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, nous dit Colossiens 1, verset 17. Il est le chef et le consommateur de la foi, dit Hébreux 12, 2. Ce qui signifie que la foi trouve en lui sa raison et sa force, et qu'elle parvient par lui à la plénitude. Si le Christ est le premier et le dernier selon une vérité universelle, n'est-il pas indispensable de l'écouter et de lui confier sa vie et de le suivre? Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Comme le rappelle le verset 14 du chapitre 7. Les élus ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Ce qui veut dire que s'étant attachés de tout leur cœur au Christ crucifié et s'étant repentis, ils ont reçu la grâce du pardon de leurs péchés et ont été régénérés par l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'autre voie de salut que celle-là. Ceux qui ont suivi cette voie possèdent un grand bonheur, heureux ceux qui lavent leur robe, possèdent un grand bonheur présent et futur. ils auront accès à l'arbre de vie, c'est-à-dire à la source de la vie divine, et ils entreront dans la ville sainte pour l'éternité. Dehors les chiens, oh là là, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Le mensonge est une chose terrible. Le mensonge ravage la société humaine. Toute position qui est opposée à celle du verset précédent ferme l'entrée de la vie. Toute position qui n'est pas celle du salut par la foi en Jésus-Christ ferme donc l'entrée de la ville. Au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Voilà une nouvelle attestation de l'autorité de l'Apocalypse. Puis le Seigneur signe le livre, c'est-à-dire la Bible entière. Le Seigneur appose sa signature à la Bible en indiquant deux traits essentiels de sa mission. Quand on signe un document, on va mettre l'administrateur délégué, directeur commercial, ou etc., n'est-ce pas, on va mettre tous ces titres et puis on va paraffer. Eh bien là, le Seigneur, lui, il nous donne ces titres pour signer la Bible. Et ces titres sont le rejeton et la postérité de David, ce qui souligne son incarnation. Rejeton et postérité de David, ça veut dire qu'il est né de David selon la chair, et s'il est né selon la chair, c'est qu'il est venu en chair, comme dit Jean, c'est-à-dire qu'il a été incarné. L'incarnation est une œuvre importante du plan de Dieu. Puis, il dit qu'il est l'étoile brillante du matin, c'est-à-dire l'étoile qui précède la pleine lumière du jour, qui va dissiper entièrement les ténèbres. Il est l'étoile brillante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». L'Esprit Saint, à qui l'Église a été confiée, se joint à celle-ci dans le souhait constant de la venue de Jésus-Christ. À nouveau, jusque dans ces dernières phrases, l'Écriture sainte invite toute personne qui ressent le besoin de Dieu à s'avancer librement vers Jésus-Christ pour recevoir de lui l'eau vive qui désaltère pour l'éternité, comme Jésus l'a expliqué à la Samaritaine dans le début de l'évangile de Jean. Recommandation de ne rien ajouter ni de rien retrancher à l'Apocalypse, mais nous avons toutes les raisons d'affirmer que cela vaut pour la Bible tout entière. Fréquemment, on ajoute à l'Écriture sainte ou aux retranches d'elle une part des vérités. On le fait matériellement, en modifiant ou en altérant le texte. Il y a en Russie une fausse Bible, il y en a eu ailleurs. Ou encore, on retranche ou on ajoute par sélection arbitraire. Si je ne prends qu'une partie, n'est-ce pas, je vais déformer complètement le message. Je laisse l'autre partie, j'en prends une, celle que je veux, hein, et je fais apparaître un message qui est faux. C'est pourquoi on peut dire avec la Bible, on peut faire ce qu'on veut. Ça prouve pas, quelqu'un a la Bible, il a la Bible sous le bras, ou il parle toujours en ouvrant la Bible, ça ne veut rien dire. C'est pas ça qui est une preuve. Hein. On peut très bien déformer, ajouter ou retrancher. Mais on peut aussi ajouter ou retrancher en transformant l'esprit ou le sens du texte par des interprétations fautives ou des interprétations qui tiennent de l'introduction d'un raisonnement humain. Alors là, n'oublions pas qu'à Pierre, le Seigneur Jésus a dit « Arrière de moi, Satan !» Tu mets en scandale. Tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu, mais les paroles de l'homme. Alors, vous voyez qu'on peut modifier on peut retrancher et ajouter rien qu'en modifiant le sens ou l'esprit. Il arrive aussi que l'on prétende expliquer la Bible en lui imposant d'abord une doctrine préétablie, n'est-ce pas ? On part avec une doctrine, on a forgé une doctrine, puis on dit maintenant, vous allez voir que la Bible va justifier. Alors, on va interpréter ce qu'on veut là-dedans, n'est-ce pas ? Puis on va dire, voilà, c'est ce que font les témoins de Jéhovah. Pas difficile. C'est ce que font d'autres aussi qui vont vous démontrer tout ce que vous voulez avec la Bible. La conséquence de tel fait n'est autre que l'exclusion radicale du salut éternel. On ne peut pas être sauvé sans la vérité. Alors, prenons pour notre part cet avertissement, l'avertissement de cette déclaration finale, et soyons circonspects quand nous méditons l'Écriture ou quand nous lisons des commentaires. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans toute la vérité. Et je vous disais tout à l'heure que cette recommandation de ne rien ajouter ni retrancher va atteindre toute la Bible, les autres livres, parce que nous avons en effet des mentions équivalentes en Deutéronome 4, en Deutéronome 12, dans le Proverbe 30. Et puis, par d'autres mentions qui seraient peut-être un peu moins explicites, mais qui sont dans la même idée, nous pouvons voir que Dieu veut conserver l'intégralité de l'Écriture et surtout la portée, le sens de cette Écriture. Que celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Telle est la signature du Seigneur Jésus-Christ de la Bible en totalité. Voilà sa signature. Il a commencé par donner deux de ses qualités importantes, n'est-ce pas ? Le rejeton de David, et puis l'étoile brillante du matin. Voilà, voilà. Voilà les qualités qu'il met devant son nom. Puis ensuite, il dit, celui qui atteste ces choses dit, « Je viens bientôt ». Voilà, « Je viens bientôt ». Amen, viens Seigneur Jésus, tel est le grand soupir des cœurs fidèles de tous les âges. Et puis enfin, la Bible se termine par le dernier verset, le verset 21, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. C'est le Saint-Esprit qui adresse ainsi à l'Église la plus utile des bénédictions. En effet, c'est la grâce du Seigneur qui pardonne, qui sauve, qui procure aux disciples la force agissante d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.
Fin de l'étude de l'Apocalypse. Les chapitres 2 et 3, les lettres aux sept églises, ont été étudiés précédemment et font l'objet des cinq cassettes de la série numéro 632, 1 à 5.